Chapitre 35. Du bout d'une botte, Richard recouvrit de poussière les braises agonisantes du feu, étouffant la seule source de chaleur de cette aube glaciale. Le ciel était d'un bleu d'acier et un vent froid soufflait de l'est. Près de son autre pied, il remarqua le bâton qui avait servi à rôtir le lapin. Une proie que Callan avait attrapée seule avec le collet qu'il lui avait appris à fabriquer. Il sentit qu'il s'empourprait à cette idée. Un pauvre petit guide forestier, enseigner des idioties pareilles à une femme comme elle, la mère inquisitrice, plus qu'une reine. D'ailleurs, les souverains ne s'inclinaient-ils pas devant elle? Il ne s'était jamais senti aussi idiot. La mère inquisitrice. Pour qui se prenait-il? Zed avait essayé de le prévenir, mais bien entendu, il s'était abstenu de l'écouter. Le vide menaçait de l'engloutir. Il pensa à son frère, puis à ses amis, Chase et Zed. Même s'il ne comblait pas le gouffre qui béait en lui, il les avait et c'était bien. Il regarda Callan ramasser son sac et pensa qu'elle n'avait personne. Ses uniques amies, les autres inquisitrices, étaient mortes. Seule au monde, dans les contrées du milieu, entourée par des gens qu'elle voulait sauver mais qui la détestaient, elle devait lutter contre des ennemis impitoyables sans avoir un sorcier à ses côtés. Il comprenait qu'elle ait eu peur de lui parler. Comment ne pas redouter de perdre son seul ami? N'avait-il rien dans le ventre pour penser uniquement à lui? S'il ne pouvait être que ça, eh bien, il serait au moins son compagnon. Oui, il lui donnerait son amitié, même si ça le tuait. « Me parler n'a pas dû être facile, » dit-il. Callan s'enveloppa dans son manteau, transi par le vent. Son visage avait repris sa neutralité coutumière, mais à présent, il en savait assez sur elle pour y voir une ombre de chagrin. « Me suicider aurait été moins pénible, » avoua Callan. Elle se mit en route et il la suivit. Si elle lui avait tout révélé dès le début, se demanda-t-il, serait-il resté avec elle? Avant de la connaître, n'aurait-il pas eu trop peur pour supporter sa présence comme tous les autres? Elle avait sans doute eu raison de ne pas se précipiter, même si cela lui aurait épargné ses tourments actuels. Vers midi, ils atteignirent une intersection signalée par une pierre à moitié grande comme Richard. Il s'arrêta et étudia les symboles gravés dessus.
« C'est quoi ?»«
Des indications sur la localisation des villes et des villages, » répondit Callan en se glissant les mains sous les aisselles pour les réchauffer. « Et sur la distance qui nous en sépare. Pour éviter de croiser des gens, cette piste-là est la meilleure.
Celle du milieu? Nous arriverons dans combien de temps ?»
Callan étudia attentivement les inscriptions. « D'habitude, je vais de ville en ville en empruntant les routes principales. La pierre n'indique pas de distance par la piste, mais c'est un détour de 2 ou 3 jours.
« Y a-t-il une ville dans les environs ?»
demanda Richard en pianotant sur la garde de son épée. « Oui, nous sommes à environ 2 heures de Chantecy. Pourquoi cette question ?»«
Avec des chevaux, on gagnerait du temps. »
Callan sonda la route comme si elle voyait la cité tout au bout. « L'économie de Chantecy repose sur le bois. On y trouvera une grande scierie et les chevaux n'y manqueront sans doute pas. Mais ce n'est peut-être pas une bonne idée. Les habitants, dit-on, sont plutôt partisans de Dara.
On devrait quand même aller voir. À cheval, on gagnerait au moins une journée. J'ai des pièces d'argent et 1 ou 2 d'or. On pourra peut-être acheter des montures. »
En étant prudent, tenter le coup est envisageable, mais ne t'avise pas de sortir tes pièces. Elles portent le sceau de Terre d'Ouest, et ces gens tiennent pour une menace tout ce qui vient de ce côté-là de la frontière. Les légendes et les superstitions.
Alors, les chevaux, il faudra les voler?
As-tu la mémoire si courte? Tu voyages avec la mère inquisitrice. Il me suffira de demander. Richard s'efforça de dissimuler son malaise, mais il n'aurait pas juré que c'était réussi.
Alors allons-y.
Chantecy se dressait sur les berges du fleuve Calisidrine. L'eau boueuse servait de force motrice à la scierie, puis de moyen de transport pour les rondins. Des déversoirs serpentaient entre les zones de travail et les bâtiments délabrés de la scierie dominaient toutes les autres structures. Sous les toits d'entrepôts ouverts aux quatre vents, des piles de rondins attendaient que des barges les emportent par voie fluviale ou que des chariots les envoient par la route dans des directions différentes. Richard remarqua qu'il y en avait d'autres, stockés en plein air, mais sous des bâches goudronnées. Les habitations se pressaient sur le flanc de la colline à côté de la scierie. Usés par les ans et les intempéries, on eût dit des abris temporaires devenus permanents à cause d'une douloureuse nécessité. Même de loin, Richard et Callan virent que quelque chose clochait. Aucun bruit ne montait de la scierie et les rues étaient désertes. Normalement, la ville aurait dû fourmiller d'activités et grouiller de gens affairés. Là, on n'apercevait ni homme ni bête, et il n'y avait pas un son. N'était celui des bâches qui claquaient au vent et le grincement des panneaux de fer blanc de la scierie. Quand ils approchèrent, le vent charria jusqu'à leurs narines une atroce odeur de décomposition. Richard vérifia que l'épée de vérité coulissait bien dans son fourreau. Des corps boursouflés, proches de l'explosion et suintant de fluide noir, gisaient au coin des rues et au pied des bâtiments, empilés comme des feuilles mortes. Presque tous portaient d'horribles blessures, et des lances brisées dépassaient encore de leur poitrine. Dans ce charnier, seul le silence semblait vivant. Les portes des maisons fracassées pendaient encore à un gond miraculeusement intact où gisaient sur la chaussée, parmi des débris de meubles et de petits objets de la vie quotidienne. Toutes les vitres des maisons avaient explosé, et certains bâtiments n'étaient plus que des carcasses encombrées de gravats. Richard et Callan se protégèrent le nez et la bouche avec le col de leur manteau et continuèrent d'avancer.
Ral ? Demanda le jeune homme.
Non, ce n'est pas sa façon de tuer. Il y a eu une bataille ici.
Plutôt un carnage, je dirais.
Oui. Tu te souviens des morts chez le peuple d'Adobe ? Les victimes de Ral ressemblent toujours à ça. Ici, c'est différent.
Et ils traversèrent la ville en longeant les bâtiments, évitant le centre des rues, même quand il leur fallait enjamber des cadavres. Toutes les boutiques avaient été pillées, et ce qui n'était pas transportable gisait en miettes. D'une devanture, un rouleau de tissu bleu pâle avec des taches sombres régulièrement espacées était déployé dans la rue, comme si les pillards l'avaient délaissé parce que le propriétaire en mourant avait salopé la marchandise. Callan remonta sa manche et tendit un doigt. Sur le mur blanc d'une maison s'affichait un message en lettres de sang. « Mort à tous ceux qui résistent à Terre d'Ouest. »
« Qu'est-ce que ça signifie ?»
murmura Callan comme si elle avait peur que les morts l'entendent.
« Je n'en ai pas la moindre idée, » répondit Richard en étudiant les lettres rouges tremblotantes.
Il avança mais se retourna deux fois pour relire le message. Puis, il aperçut un chariot devant une grainetterie. Il était à demi chargé de petits meubles et de vêtements. Le vent faisait claquer les manches de robe d'enfant. Les deux jeunes gens se regardèrent. Il y avait des survivants et ils s'apprêtaient à partir. Richard entra dans la boutique dont la porte manquait, Callan sur les talons. Les rayons de soleil qui pénétraient par les fenêtres et l'encadrement de la porte déchiraient l'air chargé de poussière pour éclairer des sacs de grains renversés et des tonneaux éventrés. Richard et Callan attendirent sur le seuil que leurs yeux s'habituent à la pénombre. Dans la poussière, ils repérèrent des empreintes de pas, surtout d'enfants. Elles cessaient devant le comptoir. Sans la dégainer, Richard saisit la garde de son épée et approcha. Derrière le comptoir, des malheureux tremblaient de peur.
« Je ne vous ferai pas de mal, » dit le sourcier. « Sortez !»«
Vous êtes un soldat de l'armée du peuple venu nous aider ?»
demanda une voix de femme. Richard et Callan échangèrent un regard étonné.
« Non, » dit l'inquisitrice, « nous sommes des voyageurs. »
Une femme au visage maculé de poussière et de larmes, ses cheveux noirs coupés courts emmêlés, se leva. Sa robe était en lambeaux. Pour ne pas l'effrayer, Richard éloigna sa main de la garde de son arme. Les lèvres tremblantes, ses yeux hagards rivés sur eux, la malheureuse fit signe à ses compagnons de la rejoindre. Six enfants, cinq filles et un garçon, une autre femme et un vieillard. Les enfants s'accrochèrent aux jupes des femmes. Comme le vieillard, elles étudièrent d'abord Richard, puis dévisagèrent Callan. Les yeux écarquillés, tous les trois reculèrent contre le mur. D'abord désarçonné, Richard comprit ce qui se passait. Ils avaient remarqué les cheveux longs de Callan. Les trois adultes tombèrent à genoux, les yeux baissés, et les enfants, sans un cri, se cachèrent le visage dans les jupes des femmes. Après un bref coup d'œil à Richard, Callan fit signe à ses pauvres gens de se relever. Le regard rivé sur le sol, ils ne s'en aperçurent pas.
« Debout !» dit-elle. Inutile de vous prosterner. Debout !»
Ils relevèrent les yeux, virent les gestes frénétiques de Callan et obéirent à contre-cœur.
« À vos ordres, mère inquisitrice !»
dit une des femmes, la voix tremblante.
« Pardonnez-nous, mais nous ne vous avions pas reconnue à cause de vos vêtements et... « Ce n'est pas grave, »
coupa Callan.
« Comment vous appelez-vous ? » « Regina Clarn, mère inquisitrice. »« Regina, »
dit Callan en saisissant la femme par l'épaule pour la relever tout à fait.
« Que s'est-il passé ici ?»
Des larmes aux yeux, Regina tourna la tête vers Richard.
« Mon ami, » dit Callan, « tu devrais emmener le vieillard et les enfants dehors. »
Comprenant que la femme était trop effrayée pour parler devant lui, le sourcier proposa son bras au vieil homme et poussa quatre enfants dehors. Les deux plus jeunes fillettes refusèrent obstinément de lâcher les jupes des femmes, mais Callan lui fit signe que ce n'était pas gênant. Les quatre gamins, les yeux vides, s'assirent dans la poussière. Aucun ne répondit quand il demanda leur nom. Ils ne le regardèrent pas sinon furtivement pour s'assurer qu'il n'approchait pas trop. Le vieillard ne réagit pas davantage quand Richard voulut savoir comment il se nommait.
« Qu'est-il arrivé ici ? »
demanda le sourcier.
« Les soldats de Terre d'Ouest, » répondit l'homme, le regard rivé sur le bout de la rue.
Les yeux pleins de larmes, il ne dit rien de plus. Répugnant à le brusquer, Richard n'insista pas. Il lui offrit un morceau de viande séchée sorti de son sac, mais il ne réagit pas. Les enfants reculèrent quand il tendit la main vers eux. Accablé, il remit la viande dans son paquetage. La fille la plus âgée, presque une femme, le regardait comme s'il allait les étriper ou les gober tout cru. Le sourcier n'avait jamais vu des gens aussi terrifiés. Pour ne pas aggraver les choses, il garda ses distances, sourit gentiment et assura qu'il ne leur ferait pas de mal. Voyant qu'il ne le croyait pas, il se tourna vers la porte, pressé que Callan le rejoigne. Elle sortit enfin, un calme effrayant sur le visage. Richard la connaissait assez pour deviner qu'elle était tendue à craquer. Les enfants se précipitèrent dans la boutique. Le vieillard, lui, ne bougea pas. Callan prit le sourcier par le bras et le força à s'éloigner.
« Il n'y a pas de chevaux ici, »
dit-elle le regard fixe.
« Je crois qu'on ferait mieux d'éviter les routes principales. Les petites pistes seront plus sûres. »«
Callan, que se passe-t-il ? »
Richard regarda derrière lui.
« Qu'est-il arrivé ici ?»
L'inquisitrice, sans s'arrêter, tourna la tête vers le message écrit sur le mur. « Mort à tous ceux qui résistent à Terre d'Ouest. »
Des missionnaires sont venus vanter à ces gens les vertus de Darkenral. Ils passaient souvent et décrivaient au conseil municipal les merveilles qui arriveraient dès que Dara gouvernerait tous les royaumes. Selon eux, Ral était perdu d'amour pour tous les êtres vivants.
« C'est de la folie !»
grogna Richard.
« Peut-être, mais les habitants de Chantsi furent subjugués et acceptèrent que la ville devienne un territoire de Dara. L'armée du peuple pour la paix l'a investie. Les soldats se sont montrés très respectueux et ils dépensaient leur argent sans compter. »
Elle désigna les rondins protégés par des bâches.
Les missionnaires furent fidèles à leurs paroles. Les commandes affluèrent, du bois pour construire d'autres cités dont les résidents vivraient heureux sous le glorieux règne de Darkenral.
Et après ?
Partout, on a vite su qu'il y avait trop de travail ici pour que les habitants l'assument seuls. Du labeur au bénéfice du petit père Ral. Beaucoup d'hommes et de femmes sont venus s'atteler à la tâche. Puis les missionnaires ont parlé de la menace contre le petit père qui venait de Terre d'Ouest.
« De Terre d'Ouest ?»
répéta Richard, incrédule.
« Oui. L'armée du peuple est partie, prétendument pour combattre les hordes de Terre d'Ouest et défendre les autres villes loyales à Dara. » Les habitants ont supplié qu'on ne les laisse pas sans défense. En récompense de leur fidélité et de leur dévotion, un petit détachement est resté.
Richard poussa sa compagne sur la piste et jeta un dernier regard derrière lui. Le chemin étant assez large pour qu'on y marche de front, Callan attendit qu'il les rejointe et reprit.
« Non, ce n'étaient pas les troupes de Ral. Pendant un moment, m'ont raconté les femmes, tout s'est passé à merveille. Mais il y a une semaine, à l'aube, un régiment de Terre d'Ouest a attaqué, tuant jusqu'au dernier les soldats de Dara. Après, ces monstres ont massacré les citadins et mis à sac la ville. En égorgeant des innocents, ils criaient que c'était le sort réservé à tous les partisans de Ral et à ceux qui résistaient à Terre d'Ouest. Un peu avant le crépuscule, ils sont partis au grand galop.
Richard prit son ami par l'épaule et la força à se tourner vers lui.
« C'est faux. Les militaires de Terre d'Ouest ne feraient pas ça. C'est impossible, tu m'entends ?»«
Richard, je n'ai pas prétendu que c'était vrai. Je te répète ce que ces gens m'ont dit et ce qu'ils continuent à croire. »
Le jeune homme retira la main de l'épaule de Callan, car ce contact lui donnait une seconde raison de s'empourprer.
« L'armée de Terre d'Ouest n'aurait pas fait ça !»
ne put-il s'empêcher de répéter. Il voulut repartir, mais l'inquisitrice le retint par le bras.
« Je ne t'ai pas encore tout dit. »
Au regard de Callan, Richard n'eut aucune envie d'entendre la suite, mais il lui fit quand même signe de continuer. Quelques survivants sont partis le soir même en emportant tout ce qu'ils pouvaient. D'autres s'en sont allés le lendemain après avoir enterré leurs morts. Ce soir-là, une cinquantaine d'hommes de Terre d'Ouest sont revenus. Il ne restait plus qu'une poignée de citadins. On leur annonça que les ennemis de Terre d'Ouest n'avaient pas droit à une sépulture. Leurs cadavres devaient être jetés en pâture aux animaux en guise d'avertissement pour ceux qui s'aviseraient de résister. Pour bien se faire comprendre, ils ont raflé les hommes encore présents, même les gamins, et les ont exécutés.
À l'accent que mit Callan sur ce dernier mot, Richard jugeait inutile de demander des détails.
« Le petit garçon et le vieillard ont réussi à se cacher, sinon ils auraient subi le même sort. Les femmes furent forcées à assister à ces horreurs. »«
Combien d'entre elles ont survécu ?»«
Je n'en sais rien, sûrement très peu. »
Elle se retourna et regarda un moment la ville.
« Les soldats les ont violées, sans épargner les fillettes. Celles que tu as vues ont subi les outrages de... »«
Des soldats de Terre d'Ouest n'auraient pas fait ça !»
coupa Richard.
« Je sais, mais qui est coupable et pourquoi ?»«
Ne pouvons-nous rien pour ces malheureux ?»
demanda Richard.
« Notre mission n'est pas de protéger quelques personnes et encore moins des cadavres. Il faut arrêter Darkenral pour sauver des multitudes. Le temps presse et nous devons atteindre au plus vite Tamarang. Pour éviter les problèmes, mieux vaut se tenir à l'écart des grandes routes. »«
Tu as raison, » admit le sourcil à contre-cœur, « mais je n'aime pas ça. »«
Moi non plus. » « Richard, je crois qu'ils s'en sortiront. Ces bouchers ne reviendront pas pour une poignée de femmes et d'enfants. Ils doivent poursuivre des proies plus excitantes. »
Une drôle de consolation. Penser que des assassins chassaient des innocents au nom de son pays natal.
Richard était écœuré par tout ça. Et dire que chez lui, avant de se lancer dans cette aventure, son grand problème était que Michael veuille diriger sa vie à sa place.
« Un groupe de soldats si important ne voyagera pas sur des pistes si étroites, » dit-il. « Mais nous devrions quand même camper dans des pins compagnons la nuit. On ne sait jamais qui pourrait nous espionner. »«
Bonne idée, Richard. Beaucoup de mes compatriotes se sont ralliés à Darkenral et ils ont commis des actes indicibles. Ton jugement sur moi en est-il modifié ?»«
Bien sûr que non. » »«
Je ne te blâmerai pas non plus si les coupables étaient des soldats de Terre d'Ouest. » Ces actes que tu vomis ne font pas de toi leur complice, même si tes concitoyens les ont perpétrés. Nous sommes en guerre. Ensemble, nous tentons ce que nos ancêtres, des inquisitrices et des sorciers, ont réussi avant nous, renverser un souverain. Pour ça, nous ne pouvons compter que sur nous. »
Callan dévisagea Richard avec dans le regard la sagesse sans âge qui l'impressionnait tant. Soudain, il s'avisa qu'il serrait très fort la garde de son épée.
« Bientôt, tu seras peut-être seul face à Ral. Nous faisons tous ce que nous devons faire. »
Ce n'était pas Callan qui venait de parler, mais la mère inquisitrice. Un long moment, tendu à l'extrême, ils se défièrent du regard. Puis la jeune femme détourna les yeux et se remit en route. Richard resserra les pans de son manteau, l'âme aussi transie que le corps.
« Ce n'étaient pas des hommes de Terre d'Ouest !»
marmonna-t-il en marchant.
Brûle pour moi,
dit Rachel. Le petit tas de brindilles qu'elle avait entouré de pierres s'embrasa aussitôt, illuminant l'intérieur du pain compagnon d'une lumière rouge. La fillette remit le bâton magique dans sa poche et se réchauffa les mains au-dessus des flammes.
Nous serons en sécurité cette nuit,
dit-elle à Sarah, qui reposait sur ses genoux. La poupée ne répondit pas. Depuis leur fuite du château, elle n'avait pas dit un mot. Mais Rachel faisait comme si le jouet continuait à lui répéter qu'il l'aimait. Pour la remercier, elle blottit Sarah dans ses bras. Elle sortit des baies de sa poche et les grignota lentement, se réchauffant les mains entre chaque fruit. Sarah avait refusé d'en manger. Quand elle eut fini, Rachel mordilla le morceau de fromage dur comme du bois. Le reste de son butin avait disparu depuis longtemps. À part la miche de pain, bien entendu. Elle ne pouvait pas la manger puisque la boîte y était cachée. Giller lui manquait beaucoup. Mais elle devait lui obéir. Continuer à fuir et se trouver chaque soir un nouveau pain compagnon. Elle ignorait à quelle distance elle était du château. Elle marchait toute la journée, le soleil dans son dos le matin et devant elle le soir. Un truc que lui avait appris Brophy, qui appelait ça « naviguer au soleil ». Elle ne comprenait pas vraiment ce mot « naviguer », mais il devait vouloir dire quelque chose comme « voyager ». Une branche bougea toute seule, la faisant sursauter. Puis elle vit la grosse main qui la tenait. Ensuite, elle aperçut la lame d'une très longue épée. Les yeux écarquillés, elle se pétrifia. Un homme passa la tête dans le refuge.
« Qu'avons-nous là ? »
demanda-t-il en souriant. Rachel entendit un gémissement et s'aperçut qu'il sortait de sa propre gorge, mais elle était toujours paralysée. Une tête de femme apparut derrière celle de l'homme. Rachel serra plus fort sa poupée.
« Rengaine ton épée !»
dit la femme en passant devant son compagnon.
« Tu vois bien que ça lui fait peur !»
Rachel tira vers elle la miche de pain à demi déballée. Elle aurait voulu s'enfuir, mais ses jambes refusaient de lui obéir. La femme avança et s'agenouilla devant elle. Dans son dos, l'homme l'imita. La fillette dévisagea l'intruse à la lueur des flammes et remarqua soudain ses longs cheveux. Un autre gémissement s'échappa de sa gorge. Ses jambes réagirent enfin, un tout petit peu, la propulsant contre le tronc de l'arbre. Heureusement, elle n'avait pas lâché la miche. Les dames aux cheveux longs n'annonçaient jamais rien de bon. Rachel mordit le pied de Sarah et gémit de nouveau. Serrant la poupée de toutes ses forces, elle s'arracha à l'attraction du regard de la dame et jeta des coups d'œil autour d'elle pour trouver un moyen de fuir.
« Tu n'as rien à craindre de moi !»
dit la femme.
Sa voix était douce, mais Violette lui parlait souvent comme ça juste avant de la gifler.
Elle posa une main sur le bras de Rachel qui recula en criant.
« S'il vous plaît !»
implora-t-elle.
« Ne jetez pas Sarah dans le feu !»
« Qui est Sarah ?»
demanda l'homme. Sa compagne se retourna et lui fit signe de se taire. Puis elle regarda de nouveau Rachel, ses longs cheveux cascadant sur ses épaules. La fillette riva son regard sur cette inquiétante crinière.
« Je ne ferai pas de mal non plus à Sarah, » assura la femme, la voix toujours aussi douce. Quand une dame aux cheveux longs utilisait ce ton, elle mentait. Rachel le savait. Pourtant, celle-là avait l'air vraiment gentille.
« Vous ne pourriez pas nous laisser seuls ?»
souffla Rachel.
« Nous ?»
La dame regarda autour d'elle, puis ses yeux se posèrent sur la poupée.
« Je vois. C'est donc Sarah ?»
Rachel hocha la tête et mordit plus fort le pied de son jouet. Quand on ne répondait pas à une dame aux cheveux longs, les gifles ne tardaient pas à tomber.
« Une très jolie poupée ?»
La femme sourit.
Rachel aurait préféré qu'elle s'en abstienne. Un autre signe que les choses allaient mal tourner.
« Je m'appelle Richard, »
dit l'homme en avançant la tête.
« Et toi, tu t'appelles comment ?»«
Rachel, »
répondit l'enfant, un peu rassuré.
« Rachel, un très joli nom. Mais je dois t'avouer, ma petite, que tu as les cheveux les plus affreux que j'ai jamais vus. »«
Richard !»
cria la femme.
« Comment oses-tu dire une chose pareille ?»«
Parce que c'est vrai. Qui te les a massacrés comme ça, une vieille sorcière au nez crochu ?»
Rachel eut un gloussement nerveux.
« Richard, arrête, tu lui fais peur. »« Mais non, Rachel, j'ai des ciseaux dans mon sac et je suis assez doué pour la coiffure. Tu voudrais que je t'arrange ? Une coupe régulière serait mieux. Si tu restes comme ça, tu risques d'effrayer même les dragons. »
Rachel gloussa de nouveau, mais plus joyeusement.
« Oh oui, j'aimerais ça. Si mes cheveux étaient bien, ça me ferait plaisir. »«
Viens sur mes genoux et tu vas voir le résultat. »
Rachel se leva, contourna la femme sans la regarder et approcha de l'homme. Il la prit par la taille, l'assit sur ses genoux et lui passa une main dans les cheveux.
Voyons un peu l'étendue du désastre. »
Rachel garda un œil sur la femme, au cas où elle voudrait la gifler.
Richard leva les yeux et désigna sa compagne du bout de ses ciseaux. « Elle s'appelle Callan.
Moi aussi, j'ai eu peur la première fois. Elle est affreusement laide, pas vrai ?»«
Richard, où as-tu appris à parler comme ça aux enfants ?»«
Auprès d'un certain garde-frontière, je suppose. »
Rachel ne put s'empêcher de sourire.
« Non, elle n'est pas laide, » dit-elle. « Je crois que c'est la plus jolie dame que j'ai vue. »
C'était vrai. Mais les cheveux de Callan la terrorisaient quand même.
« Merci du compliment, Rachel. Tu es très jolie aussi. Tu as faim ?»
Rachel n'avait pas le droit de dire à un seigneur ou à une dame qu'elle avait envie de manger. Selon Violette, c'était mal poli, et elle l'avait puni un jour pour avoir osé le faire.
Richard souriait, l'encourageant,
mais elle n'osait toujours pas avouer à Callan qu'elle était affamée.
« Je suis sûr que oui, » dit la femme en lui tapotant le bras. « On a pêché des poissons. Si tu nous permets de le cuire sur ton feu, tu auras ta part. »
Rachel interrogea Richard du regard.
« J'ai peur que nous n'ayons eu les yeux plus gros que le ventre, »
fit-il.
« Si tu ne nous aides pas, on devra en jeter. »
« Alors c'est d'accord. Pour ne pas gaspiller, je veux bien vous aider. »
« Où sont tes parents ?»
demanda Callan en se débarrassant de son sac.
« Ils sont morts, »
répondit Rachel, trop à court d'idées pour ne pas dire la vérité. Richard s'arrêta de lui couper les cheveux, puis recommença. Callan sembla attristé, mais Rachel ignorait si c'était sincère.
« Désolé, ma chérie. »
La fillette n'était pas si chagrinée que ça. Elle ne se rappelait pas ses parents, seulement l'endroit où elle vivait avec d'autres enfants.
Richard continua à la coiffer pendant que son ami sortait une poêle de son sac pour faire frire les poissons. L'homme avait raison, la pêche était bonne. Comme les cuisiniers du château, Callan les saupoudra d'épices pendant qu'il cuisait. Ça sentait si bon que son estomac gargouilla. De petits cheveux volaient tout autour d'elle. La princesse aurait été furieuse de savoir que quelqu'un la rendait belle.
Richard coupa une des mèches les plus longues, l'attacha avec un petit morceau de liane et la lui mit dans la main. Elle regarda ce cadeau perplexe.
En principe, tu es censé la garder. Un jour, si tu aimes bien un garçon, tu lui donneras cette mèche de tes cheveux et il la mettra dans la poche de sa chemise, près de son cœur.
Il lui fit un clin d'œil.
Pour penser à toi.
Rachel eut un petit rire.
Tu es l'homme le plus bizarre que j'ai vu,
dit-elle. Richard sourit et Callan aussi.
« Tu es un seigneur ?»
demanda l'enfant en fourrant la mèche dans sa poche.
« Désolé, mais je ne suis qu'un humble guide forestier. »
Rachel crut le voir se rembrunir.
Elle, ça lui faisait plaisir de savoir qu'il n'était pas un seigneur.
Richard fouilla dans son sac, en sortit un petit miroir et le lui tendit.
« Dis-moi ce que tu en penses. »
Elle essaya de se voir dans le miroir, mais il était si minuscule qu'il lui fallut un moment pour réussir.
Quand elle réussit, elle en eut les larmes aux yeux. « Merci, Richard, merci »
cria-t-elle en se jetant au cou de son bienfaiteur.
« Mes cheveux n'ont jamais été si jolis !»
Il lui rendit son étreinte et elle trouva ça aussi agréable que quand Giller la serrait dans ses bras. Une de ses grandes mains si chaudes lui tapotait le dos. Ils restèrent ainsi longtemps, ça ne lui était jamais arrivé, et elle aurait voulu que ça ne s'arrête pas. Hélas, il la repoussa gentiment.
« Tu es un être comme on en rencontre rarement, Richard Cypher, »
dit Callan. Puis elle piqua un gros filet de poisson sur un bâton, le tendit à Rachel et lui conseilla de souffler dessus pour ne pas se brûler les lèvres. L'enfant obéit, mais elle avait trop faim pour attendre longtemps. Le meilleur poisson qu'elle ait jamais mangé, aussi bon que la tranche de viande du cuisinier au château.
« Tu en veux encore ?» demanda Callan.
Rachel hocha la tête. « On peut avoir une tranche de ton pain pour l'accompagner ?» Voyant la femme sortir un couteau, la fillette se jeta sur la miche et la blottit contre sa poitrine.
« Non »
cria-t-elle en reculant sur les fesses, le plus loin possible de la femme.
Richard s'arrêta de manger et Callan plissa le front.
Rachel glissa une main dans sa poche et la referma sur le bâton magique.
« Rachel, qu'est-ce qui te prend ?»
Giller lui avait dit de ne se fier à personne. Il fallait trouver une idée. Qu'aurait-il inventé à sa place ?
C'est pour ma grand-mère.
Dans ce cas, dit Richard, nous n'y toucherons pas, promis. N'est-ce pas, Callan ?
Bien sûr. Désolé, Rachel, nous ne savions pas. Je jure aussi. C'est oublié ?
Rachel sortit la main de sa poche et fit oui de la tête.
« Ma chérie, » demanda Richard, « où est ta grand-mère ?»
Rachel se pétrifia. Elle n'avait jamais eu de grand-mère. Paniquée, elle essaya de penser à un nom de ville entendu de la bouche d'un des conseillers de la reine. Elle cita le premier qui lui passa par la tête. « À Chantilly. »
Elle comprit aussitôt qu'elle venait de commettre une erreur. Richard et Callan eurent l'air troublés et ils se regardèrent en silence. Ignorant ce qu'il allait se passer, Rachel se demanda si elle pourrait fuir par un côté du pain compagnon.
« Rachel, nous ne toucherons pas au pain de ta grand-mère, » répéta Richard.
« C'est promis. »«
Prends un autre morceau de poisson, » ajouta Callan. « Tu peux poser ta miche, elle ne risque plus rien. »
Rachel ne bougea pas.
Elle aurait voulu fuir, mais il courait plus vite qu'elle et il n'aurait aucun mal à la rattraper. Si elle ne faisait pas ce qu'avait dit Giller, se cacher jusqu'au début de l'hiver, tant de malheureux auraient la tête coupée.
Richard ramassa Sarah et la cala sur ses genoux.
« Ta poupée va tout manger, »
dit-il en faisant semblant de nourrir le jouet.
« Si tu as encore faim, tu devrais venir. Allez, assieds-toi sur mes genoux et régale-toi. »
Rachel dévisagea les deux adultes pour savoir s'ils lui disaient la vérité. Les femmes aux cheveux longs n'avaient aucun mal à mentir. Richard, lui, semblait sincère. Elle se leva et courut vers lui. Quand elle fut assise, il lui posa Sarah sur les genoux. Rachel se blottit contre lui pendant qu'il mangeait. Elle évita de regarder Callan. Parfois, les dames aux cheveux longs trouvaient ça impoli, enfin, d'après la princesse, et elle n'avait pas envie de prendre une gifle, ni d'être obligée de s'en aller des genoux de Richard. Il faisait chaud près de lui et elle était en sécurité.
« Rachel, » dit-il, « je suis désolé, mais nous ne pouvons pas te laisser aller à Chantilly. Il ne reste personne là-bas, ce serait dangereux. »«
D'accord, j'irai ailleurs. »«
Le danger est partout, » intervint Callan. « Nous t'emmènerons avec nous, comme ça tu n'auras rien à craindre. »«
Où ?»«
Nous allons à Tamarang voir la reine. »
Rachel s'arrêta de mâcher, le souffle coupé.
« Tu viendras avec nous ?» « Milena trouvera quelqu'un pour s'occuper de toi si je lui demande. »«
Callan, tu es sûr ?» souffla Richard.
« Et le sorcier ?»«
On s'occupera d'elle avant que j'écorche vif Giller, » murmura la jeune femme. Rachel se força à avaler pour pouvoir respirer. Elle le savait. On ne pouvait pas se fier aux femmes aux cheveux longs. Elle en aurait pleuré car elle commençait à bien aimer Callan, et Richard était si gentil. Que faisait-il avec quelqu'un d'assez méchant pour vouloir blesser Giller? Peut-être était-il agréable avec elle pour se protéger, comme elle avec la princesse? Oui, il devait avoir peur qu'elle le frappe. Pauvre Richard! Mais ne pouvait-il pas s'enfuir, comme elle l'avait fait? Si elle lui parlait de la boîte, il voudrait peut-être partir avec elle, loin de Callan? Non. Giller lui avait recommandé de ne faire confiance à personne. S'il avait trop peur de Callan, il lui dirait tout. Il fallait être courageuse pour Giller. Et pour tous ces innocents, elle devait fuir, seule.
On décidera demain matin, dit Callan.
Il faut dormir, comme ça on partira dès le lever du soleil.
Richard serra Rachel dans ses bras et acquiesça.
Je prends le premier tour de garde. Repose-toi un peu.
Il souleva Rachel et l'attendit à Callan.
La fillette se mordit la langue pour ne pas crier. Quand la dame aux cheveux longs la blottit contre elle, elle baissa les yeux sur son couteau. Même Violette n'en avait pas. En gémissant, elle tendit les bras à Richard, qui sourit et lui donna sa poupée. Ce n'était pas ce qu'elle voulait, mais elle prit quand même Sarah et lui mordit le pied pour ne pas pleurer.
Richard lui caressa les cheveux.
« À demain matin, petit cœur. »
Il sortit, la laissant seule avec Callan. Elle ferma les yeux aussi fort que possible pour être courageuse et ne pas verser de larmes. Mais ça ne marcha pas. Quand Callan la serra plus fort, elle se mit à trembler. Tandis qu'elle la berçait et lui caressait les cheveux, Rachel aperçut une brèche entre les branches du pin compagnon juste en face d'elle. La poitrine de Callan se soulevait et s'abaissait très vite. Surprise, Rachel comprit qu'elle pleurait aussi, la tête posée sur la sienne. S'était-elle trompée? Mais non. Un jour, Violette lui avait dit que punir faisait parfois plus mal que d'être puni. Que préparait Callan pour pleurer autant?
Elle n'avait jamais vu la princesse verser des larmes quand elle s'apprêtait à la châtier. Rachel éclata en sanglots. Callan écarta la main qu'elle avait portée à sa bouche et essuya ses larmes. Les jambes en coton, l'enfant comprit qu'elle ne pourrait pas fuir maintenant.
« Tu as froid ?»
murmura Callan d'une voix tremblante comme si elle pleurait toujours. Rachel ne dit rien, de peur de recevoir une gifle. Elle hocha la tête, prête à tout subir. Mais Callan prit une couverture dans son sac et les en enveloppa toutes les deux. Ainsi, pensa la fillette, elle aurait plus de mal à lui échapper.
« Reste près de moi et je te raconterai une histoire. Comme ça, on se tiendra chaud, d'accord ?»
Rachel se coucha sur le côté, le dos contre Callan qui se serra contre elle et l'enlaça. C'était agréable, même s'il s'agissait d'une ruse. La bouche près de son oreille, la dame aux cheveux longs lui raconta l'histoire d'un pêcheur qui se transformait en poisson. Les mots firent naître des images dans sa tête. Un moment, elle en oublia ses angoisses. Callan et elle rirent même un peu ensemble. Quand l'histoire fut terminée, elle lui posa un baiser sur la tête et lui caressa les tempes. Rachel joua à croire que la dame n'était pas vraiment méchante. Faire semblant ne pouvait pas être dangereux. Rien ne lui avait jamais paru aussi doux que les doigts qui la caressaient et la chanson que lui fredonnait Callan. Ce devait être un peu comme ça, avoir une mère. Sans le vouloir, elle s'endormit et fit des rêves merveilleux. Elle se réveilla au milieu de la nuit quand Richard vint secouer Callan, mais elle garda les yeux fermés et ne bougea pas.
« Tu veux continuer à dormir avec la petite ? » souffla-t-il.
Rachel retint son souffle.
« Non, je vais monter la garde. »
La fillette l'entendit mettre son manteau et sortir. Elle écouta pour savoir dans quelle direction elle s'éloignait. Après avoir remis du bois dans le feu, Richard s'allongea près d'elle. À la lumière des flammes, elle devina qu'il la regardait car elle sentait son regard posé sur elle. Elle aurait tant voulu pouvoir lui dire que Callan était méchante, puis lui demander de fuir avec elle. Il était si gentil, et se blottir dans ses bras lui semblait la chose la plus merveilleuse du monde. Quand il remonta la couverture sur elle, la coinçant sous son menton, elle ne put s'empêcher de pleurer. Elle l'entendit se tourner sur le dos et tirer sa propre couverture. Quand sa respiration devint régulière, la preuve qu'il dormait, elle se leva.